Bonsoir tout le monde. On a-tu le droit de dire qu'ils sont bons, hein, l'équipe de Lyon? Non, mais la dernière fois, dans la vie chrétienne, ils ont dit qu'il faudra pas tout les féliciter. Ou être en... Non, ils sont bons. Une bonne équipe de Lyon, gloire à Dieu. Une affection particulière pour Pierre, parce que tu es un gars de la tuque, lui-ci. Moi, je suis un gars de la tuque. Okay? Donc, je suis toujours content de voir mon frère et tout le monde ce soir aussi. Depuis quelques temps, c'est rare qu'on. C'est pour ça qu'on regarde la télévision, là. C'est difficile de ne pas tomber sur une émission de recettes. Hein. C'est incroyable. Recettes de ci, recettes de ça. Je dis de quoi? Tu regardes ça et tu engraisses déjà. T'sais. Mais c'est vrai, tu sais, recettes pour mes Claudine, Distasio, Bégin, nomme-la toute. Là, mais, puis il y a des concours de recettes quand c'est pas avec les recettes. En tout cas, c'est, puis je vous propose ce soir une recette. Recette pour revenir au Seigneur. Peut-être ce soir, vous allez dire, mais moi, je suis le Seigneur, donc... Non, mais c'est que, gloire à Dieu, si vous suivez le Seigneur, je vous encourage à le faire, mais dans ce cas-là, vous allez trouver des ingrédients pour rester proche du Seigneur, inévitablement, par déduction. Mais il arrive dans la vie chrétienne peut-être aussi des éloignements, des détours dans nos vies. Peut-être que même ce soir, vous en vivez. Peut-être que vous êtes de corps ici, mais peut-être que votre cœur n'est pas là. Ça arrive, ça, d'aller dans des églises, aller s'asseoir, puis on est physiquement là, mais dans le fond, notre cœur est éloigné, puis on arrive chez nous, la semaine, la parole ne nous dit plus rien. Finalement, les mauvaises habitudes pécheresses recommencent à rentrer dans nos vies, puis finalement, tranquillement, c'est le refroidissement spirituel, puis finalement, on commence à dire, finalement, pourquoi aller à l'Assemblée encore, etc. Donc, c'est possible, ça. Et si c'est le cas... Et peut-être vous avez déjà vécu un éloignement, puis vous êtes revenu au Seigneur, vous êtes en train de revenir, et puis vous allez voir, finalement, vous êtes en train d'appliquer les ingrédients de la recette. Alors, j'espère que ce message puisse tous nous encourager à revenir au Seigneur si on est en train de s'éloigner. Puis si on est en train de suivre le Seigneur fidèlement, bien, on y déduira des ingrédients pour rester proche du Seigneur. Je vous invite à tourner dans votre parole. Ce soir, il n'y aura pas aucun verset à l'écran, donc vous n'avez pas le choix de suivre dans vos Bibles. Mais on va toujours rester pas mal dans les mêmes textes, donc ce ne sera pas trop... vous ne vous épuiserez pas à fouiller. Dans Deux Rois, c'est dans l'Ancien Testament, j'avais à cœur de vous parler de l'histoire de Josias. C'est Deux Rois 23. Dans l'Ancien Testament, Deux Rois 23. Et on va aller voir le verset 25. C'est intéressant, au début, je pensais en faire un genre de petit partage sur le sujet quand j'ai... pris des notes à un moment donné, l'été passé en vacances, là, dans ma petite lecture quotidienne, j'étais rendu dans ce bout-là de l'Ancien Testament, puis à force de prendre des notes à un moment donné, bien, ça en était resté là, puis finalement, en regardant les notes, justement, ça en est venu à voir, ouais, ça fait un paquet d'ingrédients pour une recette pour revenir au Seigneur, donc ça s'est transformé en message, et c'est ce que je vous propose ce soir. Deux Rois, chapitre 23, et le verset 25. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, ait gardé le beau verbe qu'on a, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. Revenir au Seigneur, quelle belle expression, revenir à l'Éternel. Premier constat, on voit que quand on lit ce texte, que revenir au Seigneur, c'est une affaire de cœur. Hein? Revient à l'Éternel de tout son cœur. La vie chrétienne, là, c'est une histoire de cœur. C'est pas une histoire de tête. On peut savoir beaucoup de choses sur le Seigneur Jésus sans connaître le Seigneur Jésus. Les écoles de théologie sont remplies de ça, les religions sont remplies de ça. Mais la vie chrétienne, c'est une histoire de cœur. Et c'est pour ça que le premier ingrédient pour revenir au Seigneur, là, je vois ici la manette, comme on dit, premier ingrédient, c'est la rectitude de cœur. Et vous allez voir, j'ai tout un concept avec des R, c'est assez fort, c'est incroyable. Mais la rectitude de cœur. On va aller dans Deux Rois, mais au chapitre 22, donc on recule. Deux Rois 22, et on va lire un petit peu le début de l'histoire de Josias. Deux Rois 22, verset 1. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adadja de Botskat. Regardez le verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans toute la voie de David, son père, il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Quel témoignage! Quand on dit que c'est David son père, évidemment, on parle de la lignée de David. David, ce n'était pas son père immédiat, on s'entend. Parce que son père était Amon. Regardez dans le chapitre 21, verset 19, on va lire un petit peu l'histoire de son père. 21, 19. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait, etc. On va s'en passer parce qu'on va m'en faire jouer un peu. Mais regardez au verset 20, lui, ce que fait son père. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père, servit les idoles qui avaient servi son père, se prosterna devant elle, abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères, ne marcha point dans la voie d'Éternel. Puis c'est un fait que quand on lit le chapitre 21, mais les 18 premiers versets, ça nous décrit la vie du grand-père de Josias qui était Manassé. Et quand on va au chapitre 21, verset 2, ce Manassé, le grand-père donc de Josias, le père d'Amon, il fit aussi ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Puis le verset 3 nous dit qu'il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, là on est rendu l'arrière-grand-père de Josias, avait détruit. Il éleva des autels à Baal, fit une idole d'Astarté, fit des choses abominables en bon québécois. Puis sans y tourner, on apprend au chapitre 18, verset 3, qu'Ézéchias, lui, fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Pourquoi je prends la peine de préciser ça, c'est que on remarque rapidement que le père, le grand-père de Josias, était désobéissant à l'Éternel, ne suivait pas Dieu. Mais son arrière-grand-père, Ézéchias, lui, était fidèle. Alors l'autre leçon à tirer, non seulement la vie chrétienne, c'est une affaire de cœur, mais c'est pas parce que tes parents ne suivent pas le Seigneur que ça doit t'empêcher de suivre le Seigneur, toi. Josias en est la preuve. Hein? Son père n'avait pas d'allure, spirituellement parlant. Son grand-père n'avait pas d'allure. Son arrière-grand-père avait de l'allure. Alors, première leçon qu'on tire de la vie de Josias, c'est que c'est pas parce que tes parents ne suivent pas le Seigneur que ça doit t'empêcher de le suivre, toi. Même si tu es le seul dans la famille qui est chrétien, ça ne t'empêche pas de suivre le Seigneur. Josias ne l'a pas empêché. C'est pas parce que... Puis aussi... On va voir avec Josias que ce n'est pas parce que toi, tu suis Seigneur que tes enfants vont suivre aussi. Et ça, on a la preuve dans 2 Rois 23. Tournez dans 2 Rois 23, verset 29. 2 Rois 23, 29. De son temps, Pharaon Nécho, roi d'Égypte, monta rejoindre le roi d'Assyrie vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre. Pharaon le tua à Megiddo. Dès qu'il le vit, ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char, l'emmenèrent de Megiddo à Jérusalem, l'enterrèrent dans son sépulcre, etc. Ensuite, donc après la mort de Josias, Joachas, verset 31, avait 23 ans lorsqu'il devint roi. Donc, j'ai oublié de lire la fin du verset 30. Le peuple du pays prit Joachas, fils de Josias, comme roi. Verset 31, Joachas avait 23 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait, on s'en passe, pas parce que c'est pas important, mais je veux sauver du temps. Verset 32, son fils, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement comme avaient fait ses pères. Alors, c'est un fait que ce n'est pas parce que tes parents ne suivent pas le Seigneur que ça t'empêche de suivre le Seigneur. Puis ce n'est pas parce que nos enfants ne suivent pas le Seigneur que ça devrait nous empêcher de suivre le Seigneur. Ou notre conjoint ne suit pas le Seigneur, ça ne va pas nous empêcher de suivre le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on tire comme leçon, puis c'est en guise d'introduction dans le fond? Non seulement la vie chrétienne, c'est une histoire de cœur, mais c'est une histoire individuelle. Le salut en Jésus-Christ, c'est personnel, ça. C'est pas parce que je grandis dans un foyer chrétien que je suis chrétien ou que je vais le devenir. Je dois faire et prendre une décision un jour. C'est pas parce que mes parents, mon mari, ma femme ou mes enfants sont chrétiens que ça fait de moi un chrétien. Josias a dû prendre position personnellement pour Dieu. Et là, on va aller voir l'histoire de Josias. On va revenir tantôt dans 2 Rois. Allons dans 2 Chroniques 34, un texte parallèle. Chroniques, c'est après les rois. 2 Chroniques 34. Et le verset 1. 2 Chroniques 34, verset 1. Deux Chroniques 34, 1, on lit ceci. Josias avait 8 ans, donc le même texte que tantôt. Lorsqu'il devint roi, il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, marcha dans les voies de David, son père, ne s'en détournant ni à droite ni à gauche. Et la 8e année de son règne, ça y fait quel âge, ça? Vous êtes fort au cap. Moi, ils m'ont dit au cap, là, ils savent calculer. C'est effectivement 16 ans. Évidemment, il était roi 8 ans. 8e année de son règne, il était rendu à 16 ans, comme il était encore jeune. Donc, quand vous avez 16 ans, vous êtes encore jeune. C'est intéressant, qu'est-ce qu'il dit? Quand il a eu 16 ans, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Donc, une démarche personnelle. Et c'est là qu'on voit que le salut, c'est individuel. Puis on doit tous cheminer personnellement. Et à l'âge de 16 ans, c'est là que Josias a commencé à rechercher le Dieu de David d'un cheminement personnel. Puis regardez après ça, qu'est-ce qu'il dit. Et la 12e année, il a rendu quel âge? Là? 12 plus 8, il a rendu à 20 ans, là, on va sauver du temps. Mais il a rendu à 20 ans, la 12e année, après son règne. Donc, à 16 ans, il commence à rechercher le Dieu de David, son père. Puis à la 12e année, donc à 20 ans, il commence à purifier, il passe à l'action. Là. Il commence à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées, des images en métal fondu. Alors, à 16 ans, il commence à rechercher le Dieu de son père, cheminement personnel. Puis à 20 ans, il passe à l'action puis commence à faire le ménage. Ça nous rappelle que c'est toute une bénédiction que de suivre le Seigneur dès notre jeunesse en passant. Déjà, à 16 ans, il commence à rechercher l'Éternel. À 20 ans, il passe à l'action. Il est à l'œuvre pour le Seigneur. Il est actif. Et c'est à travers cette action de ramener Israël, parce que là, le contexte, c'est que Josias, l'un des rares bons rois d'Israël, a à cœur de ramener Israël à son Dieu. Et c'est à partir de son histoire que je veux ce soir tirer les ingrédients de notre recette pour nous revenir au Seigneur quand on s'est éloigné de lui. Et on l'a vu donc, l'ingrédient numéro un, c'est la rectitude de cœur. Le jour qu'on est venu au Seigneur, j'espère que c'est le cas de tout le monde ce soir en passant. Si ce n'est pas fait encore, viens à lui ce soir. Les bras sont ouverts, Christ est mort pour toi, il a payé la dette de ton péché. Tu n'as qu'à te repentir, à se tourner vers lui par la foi. Mais quand on est venu au Seigneur, le jour où on est venu à lui, qu'est-ce qu'on a fait? On est rentré en nous-mêmes, dans le fond. Comme le fils prodigue, pour réaliser notre état. Et pour revenir au Seigneur, ça passe également par le cœur. Il faut aussi encore rentrer en nous-mêmes pour réaliser où on s'est placé les deux pieds là-dessus. Puis autant on n'est pas venu au Seigneur parce que quelqu'un nous a tordu le bras, autant on n'a pas à tordre le bras d'un chrétien rétrograde pour qu'il revienne au Seigneur. On peut l'exhorter, on peut l'encourager, mais tu sais, on ne peut pas le forcer. Là. On peut prier pour lui, par exemple. À grand-mère, on a une belle histoire depuis 2 ans d'une sœur qui était vraiment éloignée depuis des années avec un foyer qui, depuis ce temps-là, s'est dégradé. Mais depuis son retour au Seigneur, quelle fidélité incroyable à travers les épreuves qu'elle a. Là. Mais c'est bon de voir ça. Mais ça n'empêche pas, les conséquences sont là. Mais c'est bon de voir que Seigneur, c'est le Seigneur de la seconde chance, de la troisième chance, de la quatrième chance. Dieu a parlé 2 fois, Jonas, point qu'une fois. Mais ça passe par le cœur, la rectitude de cœur. Alors, on vient au Seigneur, ça passe par le cœur. On revient au Seigneur, il faut que ça passe par le cœur. Pas personne ne va tirer après nous autres, pas personne ne va nous forcer à faire quoi que ce soit. Et lorsqu'on retourne dans notre texte, dans 2 Rois 22, je crois, ouais, 2 Rois 22, je vous invite à y retourner. Puis là, on va rester pas mal dans ce passage-là. 2 Rois 22. Et là, on va aller voir notre deuxième ingrédient. Ici, on a ça dans les versets 3, 4 et 5. Donc, 2 Rois 22, verset 3. La 18e année du roi Josias. Donc, là, la 18e année, il est rendu à 26 ans. Le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils, etc., et lui dit, monte vers Idjika, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel, et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent, aux réparations de la maison de l'Éternel. Aux réparations de la maison de l'Éternel. Deuxième ingrédient pour revenir au Seigneur, réparation. Rectitude de cœur, mais aussi de la réparation à faire. Après 2 générations de rois qui étaient loin de Dieu, le temple avait besoin d'être restauré. Puis nous autres, quand on s'éloigne du Seigneur, et quand on veut revenir au Seigneur, après s'en être éloigné, il y a bien souvent des choses à réparer dans nos vies. Et souvent, c'est au niveau des relations avec les autres que j'ai brisé à travers ma rébellion, à travers mon éloignement. Il y a un prix à payer, comme c'est le cas dans le coût de la réparation du temple. Pour réparer le temple, là, il y avait de l'argent, il fallait remettre de l'argent. Il y a un prix à payer pour réparer des choses qu'on a cassées, qu'on a brisées. Vous savez, on parle souvent du prix à payer pour suivre le Seigneur, puis ça fait quasiment peur. Il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur. Mais on tend à oublier qu'il y a aussi un prix à payer pour arrêter de le suivre. Il y a un prix à payer pour arrêter de suivre le Seigneur. Mais gloire à Dieu, on a un Dieu capable de reconstruire ce qu'on a détruit par la folie de notre désobéissance, mais parfois il y a un prix à payer. Puis la restauration du temple implique aussi, vu qu'on restaure le temple, c'est qu'il y a un but, c'est qu'on veut retourner au temple. Et ça, c'est un autre ingrédient, le retour au temple. Quand on veut revenir au Seigneur, ça implique tôt ou tard un retour au sein du peuple de Dieu. On ne peut penser revenir au Seigneur tout en restant seul dans son coin. Tu sais, les Lone Rangers dans la vie chrétienne, ça n'existe pas. Ça. Moi, là, je rencontre parfois des gens qui se disent chrétiens, puis ils sont tout fiers de dire, ben moi, je suis chez nous, puis là, tu sais, c'est pas normal. Là, tu sais. Je fais à ma tête, mais je suis chez nous. Tu sais, il y a un proverbe, je ne me rappelle plus c'est lequel, tu sais, celui qui se tient l'écart cherche ce qui lui plaît. Tu sais, c'est clair. Mais si on veut être sérieux avec le Seigneur, puis revenir au Seigneur, ça passe par un retour à l'Église, un retour au sein du peuple de Dieu, un retour au temple dans le cas d'Israël. Parce que autant l'un des signes d'un chrétien rétrograde, d'un chrétien qui se refroidit, c'est l'abandon des réunions de l'Assemblée, autant l'un des signes de son désir de revenir au Seigneur, de son sérieux de revenir au Seigneur, c'est de le revoir revenir aussi assister aux réunions de l'Assemblée. On connaît tous ce texte sans tourner, Hébreux 10, 24-25. Veillons les uns sur les autres. Ça, c'est dur de faire ça tout seul chez nous. Là, tu sais. Mais veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, nous dit le texte d'Hébreux. Évidemment, le verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Je partageais ça dernièrement à grand-mère. Je dis, vous autres, les réunions, c'est le jeudi soir, vous autres, c'est le mercredi soir ou le dimanche soir, comme ce soir. Si vous êtes honnête avec moi, en tout cas, moi, là, je peux-tu vous dire que des fois, ça ne me tente pas d'aller à l'église? Moi, le soir, après souper, je me disais, de quoi? Là? Dans le Lazy Boy, puis j'ai dû m'en acheter un autre en passant. Mais dans le Lazy Boy, il est tellement usé. On est bien le soir chez nous, on s'entend-tu? Mais à chaque fois que je suis allé à l'église, je ne l'ai jamais, jamais regretté. Le Seigneur m'a toujours béni. C'est toujours bénissant de venir à l'Église. C'est toujours bénissant de venir s'abreuver du Seigneur. On ne le regrette jamais. Et c'est pour ça que je nous encourage à être fidèles aux réunions de l'Église. Parce qu'on, tu sais, dans la sagesse de Dieu, puis c'est pour ça que j'ai de la misère avec les gens qui disent, moi, l'Église, l'Assemblée locale, je n'ai pas besoin de ça. Non, non, c'est dans la sagesse de Dieu, Dieu a cru bon et nécessaire qu'on soit en communauté pour nous exciter les uns les autres, pour grandir, pour nous édifier les uns les autres. Puis même, c'est un laboratoire d'amour, une église, parce que, tu sais, des fois, on se pisse des orteils, des fois, on a besoin de demander pardon, puis on a besoin de tolérer, puis supporter, puis si quelqu'un est sujet de se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Tu sais, c'est pas pour rien que ces versets-là, c'est comme on est tout autour, on peut se tomber sur les nerfs. Là. Mais on est là pour être transformé. On a été sauvé pour devenir semblable à Jésus-Christ. L'église locale, c'est l'endroit par excellence. Et donc, pas pour rien qu'on ait Hébreux 10, 24, 25 dans nos Bibles. Alors, revenir au Seigneur, ça passe par une rectitude de cœur. Il faut que la personne reconnaisse dans son cœur, premièrement, son éloignement, puis son désir de revenir au Seigneur aussi. Ensuite, ça passe par cette réparation des relations. Peut-être qu'on a brisé des choses qu'on a scrapées en cours de route. Mais ça passe inévitablement aussi par un retour un jour ou l'autre au temple, à l'Église de Dieu, à son peuple. Et faisons attention, c'est un fait que la fréquentation fidèle de l'Assemblée, ce n'est pas un gage de zèle spirituel. Tu sais, il y a bien des gens qui vont passer leur vie à venir à l'Église, mais je disais cette semaine, pas plus tard, dans ma lecture quotidienne, la parabole du blé et de l'ivraie. Tu sais, c'est sûr que dans l'Église, il y a des vrais et il y a des faux. Donc, c'est pas parce que quelqu'un vient toujours à l'Église que c'est un gage de zèle spirituel, faisons attention. Mais c'est aussi un fait qu'il n'est pas possible d'avoir un zèle spirituel sans la fréquentation fidèle de l'Assemblée. Et si je veux revenir au Seigneur, si je me suis refroidi, je dois me rapprocher de l'assemblée locale. Puis si je n'ai pas le goût d'aller à l'église, c'est encore le signe le plus important et le plus évident que j'ai besoin d'y aller. Et vous ne le regretterez pas. Le quatrième point est certainement lié au troisième. On va le voir au verset 8, 2 Rois 22, 8. Alors, Idjikah, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « Quelle belle expression, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Idjikah donna le livre à Shaphan et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison, le remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Et Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Idjikah m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Autre ingrédient pour revenir au Seigneur, inévitable, c'est la redécouverte de la parole de Dieu. Quelle belle expression quand on lit, hein? « J'ai trouvé le livre de la loi. » S'il n'avait pas eu le désir de réparer le temple, il n'aurait jamais trouvé le livre. Et où qu'il l'a trouvé? Je l'ai trouvé dans la maison de l'Éternel. Et c'est d'ailleurs en revenant à l'Assemblée qu'on redécouvre la parole de Dieu. Ça aussi, les gens qui restent à la maison vont dire, bon, il y en a qui vont dire, je suis allé sur Internet écouter des affaires. Non, non, mais on est fait pour être en Église. C'est à l'Assemblée qu'on redécouvre la parole de Dieu à travers l'enseignement. D'où l'importance que l'Église locale pourvoie un enseignement de qualité, un enseignement qui nourrit, puis je ne suis pas inquiète au Cap de la Madeleine de connaître les enseignants que vous avez. Là. Vous êtes équipés veillez tard. Là. Vous êtes vraiment bénis. Là, tu sais. Il y a tellement d'églises au Québec, des petits troupeaux, des petites églises éloignées qui n'ont pas d'enseignement. J'espère que vous êtes reconnaissants, Seigneur, des enseignants que vous avez au Cap de la Madeleine. Puis nous, là, je peux vous dire à grand-mère, on en profite pas à peu près, on invite Trevor, on invite les gars. On profite de vous autres pas mal, en tout cas, mais on est contents. Non, mais c'est ça, la communauté, la communion entre églises aussi. Vous avez des dons d'enseignement ici extraordinaires, profitez-en, goûtez à ça. Alors, revenir au Seigneur, ça implique une redécouverte de la parole de Dieu en revenant à l'Église, mais aussi une redécouverte personnelle de la parole de Dieu, une lecture personnelle de la parole de Dieu. Puis, moi, je veux dire, ça ne fait pas des années, des siècles, là, que je me suis mis à essayer de suivre un plan de lecture quotidien. Ça ne fait vraiment pas beaucoup d'années, ça fait quelques années à peine. Là. Alors, tu sais, je ne suis pas un champion de ça, là. Mais ça fait toute une différence de se connecter quotidiennement le plus possible. Je chaud des jours, parfois je n'ai pas le temps de lire, parfois je n'ai pas le goût de lire. Mais quand je lis encore là, je ne le regrette jamais. Puis le plan de lecture quotidien, il y a différents plans qui existent, ce qui est fantastique. Engagez-vous à ça parce que vous allez rester accroché au Seigneur de plus en plus avec ça. C'est ça qui transforme. La beauté, c'est justement c'est qu'on tombe sur des textes comme j'ai découvert dans Josias. On tombe dans les textes de l'Ancien Testament. Tu sais, la parole de Dieu, c'est d'un couvert à l'autre, donc c'est important de toute la lire à quelque part à un certain moment donné. Ce n'est pas par religion, pas par devoir, mais parce que c'est ça notre respiration spirituelle, notre nourriture spirituelle, puis la prière, c'est notre respiration. Alors, c'est sûr que revenir au Seigneur, ça passe par la redécouverte de la parole de Dieu, et en assemblée, mais personnellement. Si moi, je viens ici, le dimanche soir, ou le dimanche matin, ou le mercredi, dans des cellules de prière partout, mais que chez nous, je n'ouvre jamais la parole de Dieu, là. Ça ne fera pas des enfants forts. Donc, la redécouverte de la parole de Dieu. Et ça fait toute une différence dans nos vies quand on lit la parole de Dieu. Puis ça va faire une différence dans la vie de l'Assemblée quand les chrétiens vont se mettre à lire la parole. Entre autres, avec la formule qu'on peut dire que les Assemblées des frères ont au niveau du repas du Seigneur. C'est sûr que quelqu'un qui a lu sa parole dans la semaine et qui ne se lève pas le dimanche, là, c'est-à-dire on lit sa parole, là, puis ça bouille le dimanche matin, tu as le goût de partager. Donc, pour revenir au Seigneur, son résumé, ça commence dans le cœur, ça implique une réparation, ça passe par un retour à l'Assemblée, puis ça passe par une redécouverte de la parole de Dieu. C'est pas des, on s'entend-tu des ingrédients révolutionnaires que je vous présente à soir, des affaires bien basiques, mais il faut que ça passe par là. Le cinquième ingrédient, on le découvre dans les versets 11 à 14 du chapitre 22 de 2 Rois qu'on a devant nous. On va lire les textes. « Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il s'en fouta, non, c'est pas ça qu'il dit. Il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur et au secrétaire. Verset 13. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique sur tout ce qui nous y est prescrit. Et là, le sacrificateur allait auprès de la prophétesse, etc. Puis, une réaction à la lecture de la parole. Et le cinquième ingrédient pour revenir au Seigneur, c'est évidemment la repentance en réaction à la parole. Dans un processus de retour au Seigneur et donc de retour au temple et donc d'une redécouverte de la parole de Dieu, c'est clair que l'Esprit va nous parler. Si je m'expose à la parole, c'est clair que l'Esprit va me parler et que l'Esprit va me corriger. Que dit 2 Timothée 3,16? Toute l'Écriture, hein, d'un couvert à l'autre, est inspirée de Dieu et utile. Pourquoi? Enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. En d'autres mots, l'exposition à la parole a un effet de purification dans nos vies. On ne doit pas s'en tenir qu'à lire ou écouter la parole, il faut la mettre en pratique. C'est l'idée de Jacques 1,22 qui dit « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Et combien un chrétien rétrograde se plonge dans des faux raisonnements quand il se rencontre? Ça n'a pas de sens qu'il essaie de se justifier. Puis de, non, ça ne fait aucun sens. La parole de Dieu est donc un agent de changement dans nos vies. C'est la source de notre régénération, rappelons-nous, et c'est la source de notre sanctification au quotidien. Et donc, quand la parole et l'Esprit nous dévoilent des péchés ou des choses à changer, on doit se repentir et abandonner ces péchés ou changer ces choses qui m'empêchent de grandir en Jésus-Christ. C'est intéressant, Hébreux 12.1, sans tourner, si on, rejetant, donc on a cette grande nuée de témoins, les héros de la foi dans Hébreux 11, puis dans Hébreux 12, il dit, bon, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, il faut rejeter le péché, mais aussi tout fardeau, des choses qui ne sont pas nécessairement péchés, mais qui nous empêchent de courir la vie chrétienne. Et si on est à s'examiner devant le Seigneur, qu'est-ce qui m'empêche de courir efficacement la vie chrétienne? Et qu'est-ce qui me refroidit, justement? À quoi on s'expose? Et quand on se repent, qu'est-ce qui arrive? Regardez le verset 15 à 20 dans 2 Rois. Après qu'ils lui eurent parlé, elle leur dit, elles sont allées voir une prophétesse, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, dites à l'homme qui vous envoyez vers moi, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir des malheurs en ce lieu, sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ce lieu et ne s'éteindra point. » Mais regardez verset 18, « Mais, parce que là, il y a un jugement qui s'en allait, là, qui s'en allait sur Israël. » Mais vous direz au roi de Juda, hein, Josias, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants qui seront un sujet d'épouvante, de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements, signe de repentance véritable, d'humiliation, et parce que tu as pleuré devant moi. Quelle belle phrase à la fin, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. La repentance. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli, et le mot-clé, c'est en paix, dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Vous êtes content d'entendre ça, là. Seigneur, là, quand il voit qu'on se repent, il va dire, de quoi il nous pardonne, puis il nous relève, puis il nous donne, c'est quoi les deux mots? La paix. Qu'est-ce qui arrive quand on se repent? C'est qu'il y a le repos de Dieu. Malgré les tribulations, les tentations, disons-nous une chose ce soir, on est gagnant de suivre le Seigneur. C'est seulement dans l'obéissance qu'on peut goûter le repos de Dieu. Ce n'est pas de goûter le repos de Dieu en désobéissant à Dieu. C'est seulement dans l'obéissance qu'on peut goûter le repos de Dieu. Et seul un enfant de Dieu peut goûter au repos de Dieu. Le monde ne connaît pas cette paix. Je vous donne ma paix, je dirai à Jésus, je vous laisse ma paix, une paix que le monde ne connaît pas. Mais comme chrétien, comment on est fou? Hein? On lâche la main du Seigneur. Le Seigneur ne lâchera jamais la main. Hein? Mais nous, là, on a la paix de Dieu quand on vient au Seigneur. On a cette sécurité éternelle, on a cette joie. Puis là, à un moment donné, là, oups, on se rebelle, puis on abandonne, on arrête de lire, on arrête de venir à l'assemblée. On essaie de faire notre tête tout à coup. Puis là, c'est drôle, on est dans la misère, on est malheureux. Mais la clé, c'est la repentance, puis le repos viendra ensuite. Hébreux 4,9 nous dit qu'il y a donc un repos de sabbat réservé, pas à qui? Au peuple de Dieu. Donc, l'effet d'un retour au Seigneur, c'est de retrouver ce repos. Hein? C'est ce qui a été accordé à Josias à la suite de sa repentance au nom de son peuple. Le sixième ingrédient, l'affiché, c'est la restauration. Ou ce que j'appelle faire du ménage. On va le voir au chapitre 23, puis je pense qu'on va avoir le temps de lire un bon bout de texte. Chapitre 23, une fois qu'il y a eu la repentance, et c'est intéressant quand même le cheminement de Josias et de ce chapitre-là quand même, hein, la rectitude de cœur, il y a cette réparation, ce retour au temple, cette redécouverte de la parole de Dieu, cette repentance, puis là, il y a cette restauration qui s'installe. Quel Seigneur est fantastique de mettre ça en ordre comme ça. Chapitre 23, verset 1. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem, puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda, tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes, tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Et qu'est-ce qu'a fait Josias? Et où la puissance? C'est la puissance de la parole de Dieu. Il en avait goûté de cette puissance-là. Il avait été exposé à la lecture de cette parole redécouverte. Et qu'est-ce qu'il fait à son tour? Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvées dans la maison de l'Éternel. C'est pour ça que c'est important de lire la parole de Dieu. Publiquement aussi. Le roi se tenait sur l'estrade. Hein? On est-tu biblique? Nous, on est sur une estrade à soi. C'est merveilleux. Non, mais le roi se tenait sur l'estrade. En passant, j'avais déjà suivi un cours de prédication, puis il disait justement, c'est pas par orgueil, puis c'est un simple principe de communication d'être sur une estrade. Puis le message est transcendant aussi de Dieu, donc c'est pas mal quand on est à terre, là, mais quand même, on comprend l'idée. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur, regardez encore, de toute son âme. Donc, il invitait le peuple à s'engager à suivre l'Éternel et à le suivre de tout son cœur, de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre, et tout le peuple entra dans l'alliance. Et là, regardez bien le ménage qui s'installe. Là. Vous remarquerez les mots-clés. Là. Verset 4. Le roi ordonna à Ijika, le souverain sacrificateur, au sacrificateur du second ordre, et à ceux qui gardaient le temple, le seuil plutôt, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits aux faux dieux. Et il les brûla hors de Jérusalem dans les champs de Cédron. Verset 5. Il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums. Verset 6. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté qu'il transporta hors de Jérusalem. Il la brûla, etc. Verset 7. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel, ça faisait toujours, hein? Et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté, le faux dieu. Au milieu du verset 8, il renversa les hauts lieux des portes. Verset 11, il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux, etc. Il brûla à la fin du verset 11. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit. Après les avoir brisés à la fin du verset 12, et enlevés de là. Verset 14, il brisa les statues et abattit les idoles. Verset 15, il renversa aussi l'autel qui était à Bethel. Il brûla au milieu du verset le haut lieu, le réduit en poussière. Il brûla l'idole. Verset 19, Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans la ville des Samaries et qu'avaient fait les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Verset 20, là, il soigne pas mal. Il immola sur les hauts lieux tous les prêtres des hauts lieux. Sur les autels, pardon, tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là. Il y brûla des ossements d'hommes. C'est-tu du ménage, ça? Ça, c'est un roi qui a à cœur la restauration. Remarquez les mots-clés qu'on a entendus. Sortir, brûler, chasser, transporter hors de, abattre, renverser, faire disparaître, démolir, briser, enlever, immoler. Tu sais, quand on va être sérieux dans notre repentance, il faut qu'on fasse du ménage dans notre vie. Là. Ça ne peut pas rester de même. Il y a des choses qu'on doit enlever. On doit être drastique parfois. Là. Tu sais, la parabole que le Seigneur donne, ou l'image que le Seigneur donne, arrache-toi l'œil si jamais c'est une occasion de chute. Mais tu sais, on va dire qu'il faut le faire physiquement, mais tu sais, il faut prendre des actions drastiques pour notre sanctification. Tu sais, qu'est-ce qui nous fait chuter? Qu'est-ce qui nous empêche de courir la course de la vie chrétienne? Une fois qu'on revient au Seigneur, une fois qu'on s'est éloigné et qu'on revient de lui, qu'est-ce qui m'a éloigné de lui? Il faut que je prenne des actions pour arrêter ces choses-là. Parfois, ça peut être drastique. On doit prendre peut-être finir des habitudes drastiquement. Il n'y a pas de retour au Seigneur sans repentance, mais il n'y a pas de repentance sans restauration, sans ménage. Finalement, le septième et dernier ingrédient, le rétablissement. Regardez, on va lire le verset 21 à 24. On l'a devant nous, là, dans 2 Rois 23. 2 Rois 23, verset 21. Le roi donna cet ordre à tout le peuple, célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans le livre de l'Alliance. Et à cause de tout ce qui s'était passé, regardez le verset 22, aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Et de plus, on rappelle que Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits, etc. Rétablissement de la Pâque. Rétablissement de la joie, rétablissement des éléments du temple. Alors, c'est vrai qu'il faut d'un côté se débarrasser des mauvaises actions dans nos vies quand on revient au Seigneur, mais il faut en rétablir ou en établir de bonnes habitudes dans nos vies. C'est l'idée derrière se dépouiller de notre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, nous dit Éphésiens 4, pour revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté que produit la vérité, que produit la parole. Et tout ça en étant renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, Éphésiens 4, verset 21-24. Revenir au Seigneur, ça demande une reprogrammation de notre pensée. Pas compliqué. Quand on s'éloigne du Seigneur, c'est sûr que là, comme on parlait tantôt, les faux raisonnements, puis là, on commence à être tordu, puis notre pensée commence à se corrompre, puis c'est assez facile. Arrêtez de lire votre parole, arrêtez de venir à l'Église, puis vous allez voir que ça revient vite la chair. Et donc, quand on revient au Seigneur, ça demande une autre reprogrammation de nos pensées, pour qu'elles soient bibliques, selon la vérité. C'est d'ailleurs ce que la Bible appelle le renouvellement de l'intelligence, Romains 12, 2. Et donc, tous ces ingrédients-là nous donnent la recette pour revenir au Seigneur. Hein? Rectitude de cœur, réparation, retour au temple, redécouverte de la parole de Dieu, repentance, restauration, rétablissement. Mais vous savez quoi? Ça nous donne aussi la recette pour rester près du Seigneur. Puis du même coup, ce sont autant de signes à surveiller pour me montrer que je commence à m'éloigner du Seigneur. Moi, je trouve avec cette liste-là, là, ça devrait toujours nous aider à dire, bien là, je suis en train de me refroidir. Puis on l'a dit au début, ça se passe dans le cœur. Vous savez, ce soir, vous pouvez compter bien des histoires aux autres, puis passer pour un chrétien extraordinaire, fidèle, mais dans le cœur, vous le savez pas mal, vous, que c'est pas le cas. Mais surtout, le Seigneur sait ce qu'il y a dans ton cœur. Tu peux jouer à la comédie à bien du monde, là, mais pas au Seigneur. Quand je commence à laisser rentrer dans ma vie chrétienne de vieilles habitudes charnelles, quand je commence à m'endurcir face au péché, quand je commence à négliger la lecture de sa parole, à négliger les réunions avec les autres chrétiens, ce sont autant de lumières rouges là, pour nous alerter qu'on est en train de glisser vers le mauvais chemin, qu'on risque de devenir un chrétien rétrograde avec tous les malheurs qui s'y rattachent. On va relire le verset 25 du chapitre 23 qu'on a lu au début. 2 Rois 23, 25. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Mais je voudrais vous lire en terminant un avertissement. On va tourner dans 2 Chroniques 36. 2 Chroniques 36. Dans 2 Chroniques 36, 11, on va voir rapidement, on reste 5 minutes, donc on a le temps. Là. On a là le petit-fils de Josias. 2 Chroniques 36, 11, le petit-fils de Josias. Et lisez bien et écoutez bien les paroles qu'on a devant nous. Donc, c'est le petit-fils de Josias qui s'appelle Sédécias. Et gardez là le verset 12. Le verset 11, Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 11 ans à Jérusalem. Donc, c'est le petit-fils de Josias. Verset 12, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel son Dieu. Et gardez là, il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète, qui lui parlait de la part de l'Éternel. Oups! L'Éternel lui parlait, mais il ne s'humilie pas. Pire que ça, verset 13, regardez le terme, il est assez fort, il se révolta même contre le roi Nébuchadnezzar qui l'avait fait jurer par le nom de Dieu. Et regardez le triste mot qu'on a là, il raidit son cou et endurcit son cœur. Au point de ne pas, et regardez le verset, le terme, retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a un danger quand on s'éloigne du Seigneur. Le Seigneur nous parle. Moi, je me rappelle, écoutez, je n'ai pas le temps de vous raconter mon témoignage, là, qu'ils connaissent, mais moi, j'ai eu une période dans ma vie assez longue que je me suis détourné du Seigneur. Puis quand on est loin du Seigneur, est-ce quelqu'un qu'on ne veut pas voir? C'est bien les chrétiens. Moi, je me rappelle, j'étais là-dessus avec une petite ville, après trois rues, tu n'as pas le choix de tomber sur un chrétien à un moment donné. Pierre ici, qui n'est pas gros, hein, quand même. Là-dessus. Mais je ne suivais pas le Seigneur, puis ça me tannait tellement de tomber sur un chrétien en ville, là, toi. C'est quelqu'un que tu ne veux pas voir pendant tout. Le Seigneur te parle là, quand il te fait croiser un chrétien et toi, tu ne suis plus ou tu ne suis pas. Là, ou tu es refroidi. Là. Ça parle dans ta conscience, rien qu'à voir le chrétien. Je dis ça parce que le Seigneur, lorsqu'on s'éloigne de lui, prend différentes façons pour nous parler. Puis c'est le cas aussi du petit-fils à Josias, c'est des sciences. Hein, à la fin du verset 12, le prophète Jérémie, écoutez, c'est pas rien, il lui parlait de la parole d'Éternel, mais au lieu de s'humilier, il s'est révolté, il a raidi son cou, au point, et là, c'est là qu'il est terrible, au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous savez, à force de raidir le cou, peut-être que ce soir, vous êtes dans une période de refroidissement spirituel. Vous venez d'entendre ce message-là, on a la liste d'ingrédients pour revenir au Seigneur. Vous allez en retourner chez vous tantôt, puis ça vous tente encore de rester dans votre péché, ça vous tente encore de rester dans votre rébellion, ça vous tente encore de rester dans votre éloignement. Vous savez, à force de réduire le coup, il y a toujours un risque d'atteindre un point de non-retour. Et je ne parle pas de perte de salut, on ne perd pas notre salut. Mais j'aimerais ça vous amener voir, il nous reste 2 minutes, comment ça s'est terminé avec ce Sédécias-là. Qu'est-ce qu'il a récolté comme fruit de sa révolte? Tournez dans Jérémie 52. Justement, ce Jérémie-là, c'est intéressant. Jérémie 52, verset 8. Ça. Même Jérémie qui a parlé à ce Sédécias, écrit ceci. Jérémie 52 et le verset 8. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et ils atteignirent Sédécias dans les plaines de Jéricho et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi, verset 9, et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla dans le pays de Hamat et il prononça contre lui une sentence. Regardez verset 10. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias en sa présence. Il fit aussi égorger tous les chefs de Juda à Ribla. Puis il fit crever les yeux à Sédécias. Le fit lier avec des chaînes d'airain. Le roi de Babylone l'amena à Babylone. Il le tint en prison jusqu'au jour de sa mort. Quelle belle fin extraordinaire. Vive la révolte. C'est donc le fun pour suivre le Seigneur. Moi, quand j'ai lu ça, wow, quelle fin tragique. Lui qui avait un héritage de son grand-père, Josias, extraordinaire. Il n'était pas obligé de faire comme son père. On l'a dit, c'est individuel. Non, c'est des sciences. A refusé de s'humilier. Sédécias faisait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, puis quand Jérémie lui a parlé au nom de l'Éternel, non, il s'est raidi le cou, puis même il a refusé de retourner à l'Éternel. Toute une finale. Je l'ai dit tantôt, il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur, mais tout un prix à payer pour le suivre. Quand on le connaît. Allez, finir les yeux crevés, puis avant de crever les yeux, il a vu ses fils se faire égorger devant lui. Fini en prison, aveugle, crevé. Alors qu'il a eu l'occasion de s'humilier comme Josias. Prenons au sérieux les avertissements du Seigneur. Il y a vraiment un danger d'endurcir notre cœur. Il y a vraiment un danger de se tenir loin longtemps du Seigneur. Mais jamais trop tard pour venir. On a la recette. Ça passe par le cœur. On va terminer par un mot de prière. Seigneur Dieu, ce soir, on est tellement heureux d'avoir lu ta parole. Et Seigneur, ce qui est contenu dans l'Ancien Testament, c'est là pour qu'on en tire des leçons. Et quelle sagesse tu as d'avoir inclus dans ton saint livre toute cette histoire, ces mauvais témoignages, mais ces bons témoignages. Et Josias qui a eu à cœur la restauration de son peuple, le retour de son peuple. On a vu les ingrédients. Seigneur, tu connais nos propres cœurs ce soir, et tu connais nos refroidissements, nos éloignements. Ô Père, fais qu'on puisse se repentir. Fais qu'on puisse reconnaître qu'on est en train de s'éloigner de toi. Puis les signes sont là lorsqu'on arrête de lire ta parole, lorsqu'on n'a plus le goût de venir à l'Église, lorsqu'on recommence à permettre des habitudes pécheresses dans nos vies. Seigneur, ce sont autant de lumières rouges qui disent, oups, c'est le temps d'arrêter et de revenir à l'Éternel. Et Père, on est content parce que tu es un Dieu qui pardonne, qui relève, puis même qui fait des lignes droites avec des lignes croches. C'est assez extraordinaire. Seigneur, tu connais ceux qui sont ici ce soir. D'abord, ceux qui t'appartiennent et ceux qui ne t'appartiennent pas. J'espère que tout le monde t'appartienne par la foi en Jésus-Christ. Et on te prie, Seigneur, qu'on soit tous des enfants fidèles. Et comme il était dit et qu'il était lu ce soir, qu'on puisse t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, par ton esprit, par ta parole. Bénis ton peuple au Cap, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen.